Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, aussi Margot Léridon, Bertie Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Huy et mise en ondes ce matin par Laurie Vachon. Troisième volet de notre série consacrée à l'Amérique latine, après avoir parlé du Chili qui travaille à changer sa constitution, après avoir évoqué le Brésil, au lendemain d'élections locales qui voient le paysage politique traditionnel se recomposer, place ce matin au Pérou qui s'enfonce dans une crise politique profonde avec pas moins de 3 présidents qui se sont succédés en une semaine. Quand la corruption fait tomber les têtes, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Aujourd'hui, je quitte le palais présidentiel. Aujourd'hui, je rentre à mon domicile directement. Et je ne vais entreprendre aucune action légale.
Nous ne soutenons pas Vizcarra et nous ne sommes pas non plus en faveur de Merino. Nous voulons juste que la voix du peuple soit entendue.
J'annonce ma démission de la charge de président de la République.
Il n'a pas démissionné. Le peuple l'a mis dehors. Merino n'a jamais été président. Il ne me représente pas. Il ne m'a jamais représenté. Maintenant, le Congrès doit partir. Il nous faut une nouvelle constitution.
Es un momento para preguntarnos.
Le temps est venu de nous demander où nous nous sommes égarés. Le temps est venu de réparer nos erreurs. Et le temps est venu d'avancer vers un avenir meilleur pour tous les Péruviens et les Péruviennes.
Trois présidents, rien que ça, viennent de se succéder au pouvoir en moins d'une semaine. Le 9 novembre, le président Martin Vizcarra, en poste depuis 2018, est destitué par le Parlement en cause des soupçons de corruption sur 2 affaires de construction à l'époque où il était gouverneur de province en 2014. Manuel Merino, président du Congrès, prend alors sa place. Mais la rue, qui soupçonne une manœuvre politicienne, proteste vivement et demande le départ de Merino. 17 novembre, après 5 jours de manifestation, 2 morts, 100 de blessés, Merino démissionne et cède sa place à un nouveau président, Francisco Sagasti. En toile de fond de ses manœuvres politiques, un immense scandale de corruption qui éclabousse la classe politique péruvienne depuis plusieurs années. Celle de l'affaire dite Odebrecht, du nom de cette entreprise de construction brésilienne qui a reconnu avoir versé des millions de dollars de pots de vin pour obtenir des marchés publics. 4 anciens présidents serait impliqué, sans parler du Parlement, à l'image déplorable, soupçonnée de collusion avec les milieux d'affaires et en manque criant de légitimité. Alors dans un tel contexte, comment reconstruire la confiance? Comment sortir d'une crise politique, fruit d'un phénomène de corruption systémique à laquelle s'ajoute une crise économique et sociale profonde? Peut-on croire en un adjornamento de l'ensemble de la classe politique? La pression de la rue, notamment des jeunes, pourrait-elle se traduire par l'émergence d'une nouvelle génération politique? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Marie-Esther Lacuisse. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste, chercheuse associée au CREDA, le Centre de Recherche et de Documentation des Amériques, et membre de l'OPALC, qui est l'Observatoire Politique de l'Amérique Latine et des Caraïbes. Avec nous également Kevin Partonnet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, professeur à l'Université de Tours, membre de l'Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire François Rabelais, et puis membre également de l'OPALC, chercheur associé à l'OPALC, cet observatoire. Je le disais, Marie-Esther Lacuisse, dans mon introduction, 3 présidents en une semaine, Martin Vizcarra, Manuel Merino et maintenant Francisco Sagasti. Est-ce qu'on est là dans la plus grave crise politique de l'histoire récente, en tout cas du pays, où vous diriez que, au fond, on a déjà connu des choses de ce genre-là et rien de si inédit que ça, Marie-Esther Lacuisse?
On peut dire que ces 3 présidents marquent un cycle de crise, puisque une crise événement, puisque c'est dans la continuité d'une crise politique au Pérou liée à des affaires de corruption et liée aussi à un ordre politique qui n'arrive pas à se rétablir depuis les années 90 et le passage aux politiques libérales. Et Vizcarra, il y avait déjà une tentative de destitution par Moreno en septembre qui avait échoué. L'année d'avant, des élections anticipées législatives organisées par Vizcarra visant à renouveler un parlement composé de nombreux députés corrompus. selon les mots de Vizcarra, donc il y aurait quand même 69 députés avec une enquête pour corruption sur plus de 120 députés.
Oui, donc finalement une crise politique malheureusement attendue. On va évidemment essayer de comprendre ce qui a favorisé ce contexte de crise politique, et il faudra remonter effectivement aux années 90. Il faudra notamment parler d'Alberto Fujimori, de son passage pendant une décennie dans le pays, parce que depuis, on n'a eu que des affaires de corruption. On fera évidemment ce travail de perspective historique. Kevin Partenay, c'est maintenant Francisco Sagasti qui est en fonction depuis 12 jours. Alors, ça peut apparaître comme une forme d'apaisement quand on pense que ce pays a connu 3 présidents en une semaine. Est-ce que vous diriez que l'arrivée de Sagasti constitue effectivement un début de sortie de crise, où on n'est pas à l'abri de voir, là, dans les semaines, voire les jours qui viennent, une nouvelle démission?
Non, effectivement, je pense qu'on est très loin d'être à l'abri de nouveaux basculements et de nouveaux troubles. En réalité, même si aujourd'hui la rue, les citoyens péruviens regardent avec beaucoup d'attention ce que Francisco Sagasti est en train de faire, ce qu'on observe, c'est, comme le disait Marie-Esther Lacuisse, c'est un système qui est véritablement aujourd'hui à bout de souffle. C'est ce que disent d'ailleurs cette crise de la démocratie représentative aussi, cette succession de présidents sous la mandature, depuis 2018, et la première destitution ou démission de Pedro Pablo Kuczynski. Et en l'occurrence, les sujets qui sont devant le président Sagasti aujourd'hui, c'est tout simplement la réforme constitutionnelle, comme vous l'avez abordé dans d'autres émissions cette semaine, avec le Chili notamment. Aujourd'hui, ce système à bout de souffle doit se réformer, ça doit passer par la Constitution. Et en l'occurrence, j'ai envie de dire que même si 3 présidents se sont succédés dans un temps court, c'est aujourd'hui que tout commence.
Et même si pour le moment, en tout cas, il ne s'engage pas vers une réforme de la Constitution. Pour l'instant, sa priorité, c'est de ramener le calme, si je puis dire, c'est de procéder à une réforme de la police, parce que ça, il l'a déjà annoncé. Et c'était très attendu par la rue. Il faut rappeler qu'il y a quand même 2 jeunes protestataires très jeunes, 22-24 ans, qui ont été tués par la police. Il a déjà annoncé une réforme de la police. Il a déjà aussi annoncé des nouvelles nominations et des évictions de généraux. Ce sont des premiers gestes politiques qui sont, selon vous, de nature à répondre aux exigences de la rue et apporter un tout petit peu d'apaisement, ou c'est de la pure cosmétique? Encore vous, Kevin Partenay, je vous passe la parole, Marie-Esther Lacuisse.
Kevin Partenay. De manière immédiate, oui. De toute façon, il y a des attentes qui sont immédiates quand vous avez des scénarios comme ça de violence commises, alors que la population a, elle, de très fortes attentes vis-à-vis du pouvoir. Et c'est incontournable. Il devait faire ça. Malgré tout, quand on dit il devait faire ça, c'est pas forcément gagné, puisque Merino, le président donc qui est resté au pouvoir une semaine, avait plutôt lui choisi la voie autoritaire et répressive en l'occurrence. Donc c'était pas gagné. Il l'a fait, c'est très bien. Néanmoins, les réformes constitutionnelles, les discussions ou les réflexions autour de la réforme constitutionnelle sont déjà engagées, puisque ça ira très largement de pair avec la campagne des élections présidentielles à venir. Et en l'occurrence, on le voit déjà au sein du Congrès et entre tous les responsables politiques, ça fuse de toutes parts entre ce qu'il faut réformer, pas réformer, ceux qui sont légitimes à le faire ou à ne pas le faire, etc.
Oui, mais on est d'accord, Kevin Partenay, que pour le moment en tout cas, le président Sagasti a dit que ce n'était pas la première priorité, on est d'accord?
Non, effectivement, ça c'est son cheval de bataille sur le temps long, même s'il a un temps court quand même comme horizon présidentiel, mais effectivement c'est pas les mesures immédiates qui vont être prises, quoi qu'il arrive. La réforme constitutionnelle prendra du temps, ça c'est sûr.
On va y revenir, ça c'est pour les solutions. On va d'abord regarder l'état des lieux, c'est de comprendre la situation et pourquoi on en arrive là. Marie-Esther Lacuisse, juste un dernier mot sur Sagasti. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne personne là aujourd'hui, l'homme qu'il fallait? C'est une personnalité, on dit, relativement consensuel. D'abord, c'est un universitaire qui a travaillé longtemps à la Banque mondiale avant de devenir député au sein d'un parti, le Parti Violet, qui est un parti libéral, qui est le seul parti qui n'a pas voté précisément en faveur de la destitution de Vizcarra. Il a le bon profil pour régler cette crise politique, Marie-Esther Lacuisse?
Comme vous le soulignez, c'est exact. Le Parti Violet, Morlado, est le seul qui n'a pas voté la destitution, puisque le parti s'était aussi lancé dans une chasse à la corruption tel que le président Vizcarra. Si le président Vizcarra est soupçonné de pot de vin lorsqu'il était gouverneur de la région Moguegua sur des ouvrages publics, il s'est aussi lancé dans une chasse à la corruption. Le fait que quelqu'un arrive d'un nouveau parti, parce que le parti violet c'est aussi un nouveau parti, il fait partie de ce petit renouvellement de la classe politique. C'est un signe pour un gouvernement de transition. Il veut jouer un rôle de gouvernement de transition et en effet, il n'est pas parti dans des réformes. Là, on est dans de l'apaisement, dans une sortie de crise de la Covid qui a été très importante au Pérou. C'est assurer des politiques publiques minimum.
Vous nous rappelez, Marie-Esther Lacroix, de quoi Vizcarra est accusé très concrètement? Parce que, effectivement, le Congrès a d'abord ouvert une enquête pour des soupçons de corruption en septembre dernier. Et puis, la justice, ensuite, le mois d'après, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Et effectivement, est-ce qu'il y a des raisons de croire qu'il est effectivement coupable d'agissements répréhensibles?
Alors, c'est toujours difficile de se prononcer parce qu'on n'a pas, les dossiers en main. Par contre, les soupçons sont notamment sur des pots de vin reçus sur la construction d'un hôpital public dans la région de Moquegua, qu'il faut préciser est une région minière. Et Vizcarra aussi a défendu les intérêts des mineurs quand il était gouverneur de la région. Et donc, du coup, ça en fait un profil particulier. Donc, il y a une première hypothèse qu'il aurait pu toucher et toucher des pots de vin, comme ça se fait quand même beaucoup au Pérou. La deuxième hypothèse, c'est qu'on l'attaque, c'est une forme de contre-attaque. En fait, comme il veut se lancer à la chasse à la corruption, on essaye de trouver un cas de corruption pour le sortir. Il a un profil qui est atypique par rapport à l'élite politique péruvienne. Il vient d'une région rurale et minière. Il a un rôle plutôt de technicien, d'acteur politique local et non national. Donc voilà, il est difficile de se prononcer et il peut y avoir des pots de vin, mais ça peut être aussi une contre-attaque pour le sortir et qu'il arrête cette politique anticorruption.
Pour fermer cette parenthèse Vizcarra et puis ensuite on va faire un retour en arrière et revenir sur d'autres acteurs, il faut peut-être rappeler aussi cette décision du tribunal constitutionnel qui a refusé de se prononcer sur l'incapacité morale permanente, je reprends la formule, utilisée par le Congrès pour écarter Vizcarra. Pourquoi ce refus de se positionner du tribunal constitutionnel et qu'est-ce que cette séquence nous dit en particulier du rapport de force entre le Parlement et le président de l'autre côté, Marie-Esther Lacuisse?
Alors, c'est une très bonne question. C'est un sujet qui est important au Pérou, c'est la séparation entre pouvoir juridique et exécutif et législatif. Le pouvoir juridique au Pérou va avoir tendance, à bon escient ou pas, à protéger quand même une certaine stabilité du pays. Et aussi pour garantir les investissements et donc de soutenir la destitution pour injonction morale ne va pas dans un sens de garantie des investissements mais aussi de refonte des institutions parce que là le pouvoir juridique a un rôle important et Vizcarra l'aura chargé d'un rôle important. Donc est-ce qu'il y a ça c'est à voir dans les même pas les prochains mois, peut-être les prochaines années, si vraiment il y a un rapport qui est une relation qui est modifiée et le pouvoir juridique, dans ces cas-là, prendrait un poids pour rétablir des institutions formelles plus justes.
Ce pouvoir juridique, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il est totalement indépendant ou il est largement utilisé, instrumentalisé à des fins politiques?
À largement dépendant, je pense pas. Il a déjà été utilisé à des fins politiques et économiques.
De vous couper, mais il est quand même assez rare de voir une justice qui arrive à poursuivre des élites politiques et même des présidents qui se retrouvent accusés, condamnés. On se dit qu'a priori, c'est le signe d'une justice qui se porte plutôt pas mal. Voilà un motif de réjouissance.
Oui, alors on peut peut-être dire que c'est le pouvoir qui fait que il y a une certaine forme de changement au Pérou. Là, il faudrait faire une sociologie du renouvellement des acteurs juridiques, ce qui est moins ma spécialité. Donc c'est montre un signe de changement, comme l'arrivée aussi de certaines personnalités comme Mirta Esther Vasquez, la présidente du Congrès, qui vient quand même des conflits miniers à Caramarca, qui défend le droit des femmes, qui a défendu Maxima pour la protection face aux intérêts de Yanacocha entreprise minière. Donc oui, à ce niveau-là, les profils qui montent, et même dans l'arène politique, sont quand même des gens qui sont assez liés à la lutte juridique. Donc ça, c'est ce que moi j'observe, c'est la voie d'un rétablissement et d'une politique voilà, plus sociale et plus éthique viendrait en effet, et c'est original, du pouvoir juridique au Pérou.
On reviendra sur cette montée en puissance de ces acteurs sociaux, ces acteurs politiques. Vous évoquiez tout à l'heure, Kevin Partenay, Pedro Pablo Kuczynski, qui, je le rappelle, était devenu président en 2016. Il l'avait emporté de justesse face à Keiko Fujimori, qui était la fille du président Alberto Fujimori, qui lui a été au pouvoir de 90 à 2000. Alors, Kuczynski, il a d'abord échappé à une première destitution en décembre 2017. Il avait fini par démissionner en mars 2018 face à une nouvelle menace de destitution.
Face au développement de cette situation difficile où je suis injustement apparu comme coupable d'actes auxquels je n'ai pas participé, je pense que la meilleure chose que je puisse faire pour le pays est de démissionner de mes fonctions de président de la République.
À bas les politiques et entrepreneurs corrompus, à bas! Des procureurs ont été menacés pour le travail qu'ils mènent, et leurs familles aussi. C'est important de montrer que la population les soutient. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir en finir avec la corruption. Le rôle de la rue et des mobilisations est décisif.
Voilà, la rue qui soutenait donc le travail de la justice, mars 2018, Kuczynski qui est destitué, il est arrêté pour corruption, il est placé en détention provisoire, il a été libéré depuis, il a été placé en résidence surveillée pour des raisons de santé, et puis en janvier 2020, il est accusé de blanchiment, condamné à verser plus de 4 millions de dollars de réparation envers l'État péruvien, dans le cadre de l'affaire Odebrecht, du nom de l'entreprise brésilienne de BTP qui a obtenu des marchés publics contre des pots de vin dans une dizaine de pays d'Amérique latine. Kevin Partenay, les faits qui sont reprochés à Kuczynski et l'ampleur et l'effet de cette affaire Odebrecht dans ce paysage politique péruvien. On ne peut rien comprendre si on ne parle pas de cette affaire-là, Kevin Partenay.
Oui, ça c'est certain. C'est, je veux dire, la base de c'est une sorte de matrice des événements qui se sont déroulés depuis. Alors c'est, comme vous le disiez, quelque chose qui vient d'ailleurs, hein, de l'extérieur du Pérou, cette entreprise brésilienne néanmoins, qui, on va dire, ont accentué très largement des pratiques de corruption. Vous mentionnez ces pots de vin, ça touche à absolument tous les secteurs de la société jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et en l'occurrence, Pedro Pablo Kuczynski a été tenu pour responsable, en tout cas d'avoir reçu ces pots de vin alors qu'il était ministre de l'économie, puis premier ministre plus tard, et qu'en l'occurrence, ça représentait des conflits d'intérêts. Qui plus est, bon, les ramifications de l'affaire Odebrecht ont pu permettre de dévoiler justement l'ensemble de l'étendue de la corruption dans la classe politique péruvienne par ailleurs, qui touche beaucoup des projets d'infrastructure notamment. On les a vus, des vidéos ont circulé, on les a appelées les Kenji vidéos puisque ça avait été le frère de Keiko Fujimori, bon, qui sont opposés l'un et l'autre, mais ça nous pousserait à amener développer d'autres histoires, mais essayer précisément de corrompre des députés sur des projets d'infrastructure en utilisant de l'argent extrait d'Odebrecht. Donc il y a quelque chose qui est de cette ramification très importante et qui a très largement coûté sa place donc à Pedro Pablo Kuczynski. La grande différence, si je peux juste ajouter un point, avec l'affaire PPK et l'affaire Viscara, c'est que dans l'affaire PPK, Pedro Pablo Kuczynski, il y a eu une commission d'enquête parlementaire. L'unité d'intelligence financière péruvienne a travaillé sur ce cas et il y a eu des preuves de justice. Ce qui n'est pas le cas, et il faut pour le moment en tout cas, hein, et ça repose sur ce que disait Marie-Esther tout à l'heure, on ne sait pas encore, c'est de l'ordre du possible, mais on ne sait pas dans le cas de Viscara. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la justice pour le moment n'a pas commencé à travailler concrètement sur le cas Viscara. La corruption dans le cas de Viscara a été utilisée comme une arme politique. Sans ouvrir un processus judiciaire. Je pense qu'il faut vraiment comparer les choses. Et peut-être juste un tout dernier point très rapidement. Il faudrait pas considérer non plus, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la justice, que la justice est d'une certaine façon immune de la corruption. Un des terrains de soubassement de toute cette crise aussi, c'est de s'être rendu compte, alors pas forcément sur le tribunal constitutionnel, mais plutôt sur le Conseil national de la magistrature, qu'une très grande quantité de magistrats étaient également corrompus. On a vu une affaire absolument scabreuse de magistrats qui étaient couverts pour des viols sur mineurs, en l'occurrence, ce qui a généré justement un réveil de la société considérable. Tout ça contribue de manière accumulée, que ce soit la justice, le secteur politique, lié ou pas à l'affaire d'Aubrecht, la corruption appelle à ce sentiment au sein de la population de c'en est fini de l'impunité, c'en est fini de la corruption, et cet appel justement à renouveler le système politique.
Oui, et par ailleurs, cette instrumentalisation de la justice que vous évoquez, on l'a vu aussi par exemple du côté du Brésil maintenant, on en a la confirmation, Sergio Moro, on a vu qu'il a effectivement utilisé cette affaire contre Lula. Et puis vous avez raison de souligner le fait que pour le moment, Martin Vizcarra, on n'a pas vraiment d'éléments concrets prouvant sa culpabilité. Et en même temps, rappelons que depuis Kuczynski... Tous les présidents qu'il y a eu depuis ont été accusés de corruption. Alejandro Toledo, Alan Garcia, Ollanta Humala. Donc malheureusement, on voit bien qu'on a un terrain qui est propice. Et alors justement, Marie-Esther Lacuisse, pour comprendre ce qui a créé ce terrain aussi propice à la corruption et à cette valse des présidents qui sont les uns après les autres accusés de corruption, il faut peut-être remonter aux années 90. On a à ce moment-là un président qui s'appelle Alberto Fujimori. Alors, on peut mettre à son actif un certain nombre de choses, notamment il a mis fin à l'insurrection armée conduite par le Sentier Lumineux, groupe paramilitaire, il a permis aussi le rétablissement d'une certaine stabilité économique dans le pays, mais c'est aussi une époque où les fondements démocratiques ont été considérablement fragilisés, on a eu un exercice du pouvoir extrêmement autoritaire, sans compter là aussi des affaires de corruption qui ont éclaté durant cette décennie. En quoi cette décennie-là, le fujimorisme, qui va d'ailleurs continuer à planer sur le pays les années suivantes, participe au fond de cette crise politique que l'on observe aujourd'hui, Marie-Esther Lacuisse.
Oui, tout à fait. Et puis je voulais revenir là-dessus en écoutant Kevin. Il parlait de la corruption des magistrats. Il y a quand même la grande affaire au Pérou qui était sous Fujimori, autour de la mine Yanacocha, où il y avait notamment des investissements français qui étaient prévus. Et toute la cour, là c'est carrément la cour constitutionnelle, a été corrompue pour accorder les intérêts miniers à une entreprise américaine. Donc là, il y a ce cas de corruption a marqué presque une trajectoire, j'ai envie de dire, de ces 10 dernières années, plus ces mêmes 20 dernières années, c'était en 98, sur l'étendue de la corruption au Pérou, qui est lié aussi à, on peut dire, alors certes, Fujimori, le conflit armé s'est réduit sous Fujimori dans les années 90. Il était le président lorsqu'il a été arrêté, mais Fujimori a perturbé aussi l'ordre politique au Pérou.
En quoi ?
Alors, avec des mesures économiques et de politique publique, c'est lui qui a fait passer toutes les réformes néolibérales. Au Pérou dans les années 90.
C'est pas un crime.
Non, c'est pas un crime, mais il a perturbé tout le système. C'était le dernier pays qui n'avait pas passé ses réformes, et il l'a fait de façon excessive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Du jour au lendemain, le Pérou est passé d'un système avec des politiques publiques dans un contexte de crise et de corruption, mais par exemple avec une banque agraire pour les producteurs, des intérêts à 0%. Et du jour au lendemain, en même pas 3 ans, on est passé à un système qu'on peut même dire hyper libéral, parce que le néolibéralisme, il y a encore un peu d'état, il est là pour réguler et orienter. Là, on est passé à vraiment un fonctionnement sur investissement privé.
J'entends bien Marie-Esther Lacuisse, mais après tout, je vais me faire le défenseur du libéralisme. On peut être libéral et démocrate. La question, c'est surtout en quoi est-ce que Fujimori aurait participé d'une forme de dégradation de la démocratie péruvienne et aurait rassemblé, au fond, les conditions de cette corruption systémique qui, aujourd'hui, produit cette crise politique.
Alors, d'une part, il y a ces réformes. Donc, je reviens sur ma petite histoire des réformes, puisque tout est lié. D'une part, il y a ces réformes qui sont censées être néolibérales, qui ont été très libérales, qui se sont mêlées à un hyper-présidentialisme. C'est-à-dire que les ministères ont perdu leurs compétences. On a eu des fonds qui dépendaient de la présidence avec une gestion de tout ce qui est financement public depuis la présidence. Puis en 2001, au moment dit de la transition démocratique pour y mettre des séquences, pareil, c'est pas un système redistributif qui a été mis en place, mais distributif. Pour donner un exemple, une région qui a des ressources naturelles au Pérou, notamment d'extraction minière, tout l'argent des revenus qui doit revenir au pays revient à cette région-là. Donc du coup, il y a aussi des espèces de foyers de financement qui se sont créés. Et c'est en ce sens-là où je dis que ces réformes-là et la façon dont elles ont été menées au Pérou, parce que dans tous les pays, elles n'ont pas été menées de la même façon, a créé un terrain, déjà une forte rupture, de ce qu'on peut appeler une dislocation de leur politique, plus un terrain très favorable avec une hyper-présidentialisation de la politique et des financements de politique publique.
Kevin Partenay, est-ce que vous rejoignez Marie-Esther Lacuisse sur ces réformes des années 90? Il y a eu effectivement en 93 une grande réforme constitutionnelle engagée par Fujimori. Est-ce que vous abondez dans ce sens et vous considérez que cette évolution constitutionnelle a aggravé la situation, qu'elle a favorisé les marges de manœuvre pour les acteurs de la corruption et que d'une certaine manière, elle est co-responsable de cette crise politique qu'on voit aujourd'hui en 2020, Kevin Partenay?
Oui, je peux que être d'accord effectivement avec ce que Marie-Esther vient d'expliquer. On est, s'agissant de la corruption, on est bien évidemment sur une trajectoire longue. De toute façon, la corruption n'arrive pas du jour au lendemain, elle s'installe sur un terrain qui lui est favorable. Et en l'occurrence, dans beaucoup d'autres pays aussi de l'Amérique latine, hein, l'implantation, vous disiez, c'est pas forcément mauvais l'implantation du néolibéralisme. Oui, le fait est que le néolibéralisme s'est implanté sur des États qui n'étaient pas aussi solides que ce qu'on a pu connaître en Europe ou par ailleurs, et sur des sociétés qui étaient déjà fortement frappées par des inégalités. Et en l'occurrence, vous avez là des vecteurs d'intensification de ces inégalités, notamment la privatisation qui pousse à une intensification de la corruption, de cooptation d'institutions de l'État, des logiques de clientèle qui se développent. Et si vous rajoutez à tout ça des systèmes de partis politiques dont les financements sont pas encadrés, vous avez un cocktail qui est très largement favorable à ce que s'intensifie toujours plus la corruption. Donc, en l'occurrence, effectivement, on a là, avec la période Fujimori, un vecteur important des événements qu'on connaît aujourd'hui, ça c'est certain.
Si on revient un peu sur ce départ de Kuczynski, départ forcé, hein, y a ensuite Martine Vizcarra qui maintenant n'est plus là aujourd'hui, mais qui prend la suite et qui va engager un vrai bras de fer avec le Parlement, qui va ordonner même sa dissolution en septembre 2019 et qui va organiser un scrutin législatif en février 2020. C'est une campagne d'ailleurs où la question de la lutte contre la corruption a été très importante. On va revenir sur les résultats même de l'élection, mais comment se fait-il au fond que ces élections n'ont pas permis de conforter Martin Vizcarra, alors même qu'il apparaissait précisément comme le héros de la lutte contre la corruption? Comment se fait-il qu'on n'a pas eu, à l'issue de ce scrutin, un Parlement avec des députés beaucoup plus engagés dans cette lutte, sachant que c'était la priorité pour les électeurs qui ont voté à ce moment-là? Kevin Partenay et ensuite Marie-Esther Lacuisse.
Pour deux raisons. D'une part, à titre, on va dire, individuel ou partisan, si on veut allonger un petit peu la focale, Martine Vizcarra avait décidé, pris délibérément la décision de ne pas présenter, en tout cas, de candidat qui lui serait rattaché, tout comme il avait pris la décision de ne pas se présenter lui-même à l'élection présidentielle qui pourrait suivre. Donc là, j'ai une posture politique très nette dans l'exercice de son intérim présidentiel qui a joué dans cette législative. Après, effectivement, pourquoi il n'y a pas eu, on va dire, de coups de pied dans la fourmilière via cette élection, tout simplement parce que on est sur la base d'un système politique qui est structurellement extrêmement fragmenté, avec des partis politiques qui ne sont plus représentatifs des intérêts de la société, qui représentent, on va dire, soit des individualités, soit des groupes ou des intérêts particuliers, et que, en l'occurrence, l'issue de l'élection, on parlera peut-être des résultats, a montré justement une très très grande, large fragmentation partisane dans la représentation du Parlement. La meilleure image qui soit, c'est que sur 130 députés, le groupe qui a le plus grand nombre de députés en a 25, et le suivant 22, ce qui vous donne peut-être un aperçu à minima de l'éclatement de ces élections. Et qui plus est, autre réalité qui est importante quand même à soulever, c'est que depuis le référendum de décembre 2018, les députés ne peuvent tenir qu'un seul mandat, c'est-à-dire que les députés qui ont été élus pour ces élections législatives extraordinaires ont été aussi de nouveaux députés faiblement connus par la population, faiblement représentatifs de ce fait, et en l'occurrence ça n'a apporté aucune réponse aux attentes de la citoyenneté dans cette logique de représentation.
Marie-Esther Lacuisse, il y a cette fragmentation du paysage parlementaire évoquée par Kevin Partenay, mais il y a aussi eu quelque chose de particulièrement notable dans cette élection de janvier 2020, qui est qu'on a vu des partis qui étaient jusqu'ici très marginaux, et qui ont réalisé des percées vraiment intéressantes lors de ces élections. Je pense par exemple au parti évangéliste FREPAP, qui a obtenu presque 9%, et qui traditionnellement tournait plutôt autour de 1%. On a un autre parti qui s'appelle le parti Union por el Perú, qui est un mouvement paramilitaire, nationaliste, indigéniste, qui était apparu dans les années 90 en opposition à Fujimori, qui lui a rassemblé presque 7% des voix. Comment comprendre tout ça, Marie-Esther Lacuisse? Est-ce que vous pensiez qu'on a là des partis qui, peut-être, pourraient jouer les premiers rôles demain et faire table rase de ces anciens partis qui sont désormais totalement décrédibilisés? Et faut-il d'ailleurs s'en réjouir, Marie-Esther Lacuisse?
La grande question, s'il faut s'en réjouir. Oui, il y a une fragmentation, il y a des nouveaux partis qui arrivent, mais c'est souvent des partis qui ne sont pas, qui n'ont pas forcément de base. Ça peut être lié à une représentation uniquement régionale. Bon, sur la question du parti évangélique, bon là c'est une large question sur l'étendue de l'évangélisme en Amérique latine, qui a des voix et des appuis, et les gens, il y a un peu la course à voter au nouveau parti comme une espèce d'espoir de renouvellement qui ne vient pas. Mais il faut faire attention entre des partis qui se reconstruisent, des partis qui émergent avec des vieilles figures politiques, et des partis, des nouveaux petites formations qui intègrent des nouveaux acteurs et qui montent un renouvellement de la classe politique. Et c'est pour ça que je parlais.
Ils ont été importants justement, ces petits partis véritablement nouveaux qui porte en tout cas une réelle nouveauté, c'est ce que vous semblez nous expliquer.
Pour ceux que j'ai pu étudier, notamment province Cajamarca, je travaille plus sur des unités locales. Oui, on a des acteurs qui viennent du militantisme, du mouvement social et aussi de l'arène de la lutte par les espaces juridiques, qui arrivent maintenant à l'arène politique à Lima. C'est la question, c'est quel accès à l'arène politique à Lima, où il y a Pérou est quand même un grand pays avec un pouvoir très centralisé et qui pourrait avoir un système fédéral, mais du coup il y a une division entre le centre, Lima, là où se fait la politique, puis les provinces, d'où émerge de temps en temps soit un leader charismatique comme Marco Arana, un ancien prêtre qui du coup là n'a pas voté pour la destitution, qui a voté pour la destitution, enfin qui est en faveur de la destitution de Vizcarra, donc ça a posé problème. Mais une militante qui travaille avec lui, Mirta Esther Vasquez, qui a pris un rôle aussi pour dénoncer la destitution et prendre un rôle plus politique.
Mais ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'il y a l'émergence de ces nouveaux acteurs, mais que avec le système actuel, ils ont beaucoup de mal à peser parce qu'on est en présence d'un système extrêmement centralisé et que donc à Lima, on n'arrive pas à peser. C'est ça qu'il faut comprendre.
C'est vraiment un facteur à prendre en compte, c'est qu'il y a une séparation, et atteindre l'arène politique, il faut soit des moyens financiers, soit connaître les espaces politiques qui se font Lima. Alors voilà, il y a un parti évangélique qui va émerger, mais de là à ce qu'ils prennent une place plus importante pour les élections prochaines, ça reste incertain, parce que ça reste totalement incertain pour moi à l'heure actuelle.
Mais justement, je voudrais vous poser la question, Kevin Partenay, parce que cet évangélisme, il est notamment incarné dans ce parti que j'évoquais, FREPAP, qui est l'acronyme de Frente Popular Agricola del Perú, qui a surpris par son succès, qui est arrivé troisième aux élections législatives en janvier 2020, qui a obtenu 15 sièges. Jusqu'ici, il a été créé en 1989, jusqu'ici, il rassemblait, j'ai regardé l'historique, à peu près 1% à chaque participation. Et là, il explose littéralement. C'est un parti qui mélange fondamentalisme chrétien, écologisme, indigénisme, nationalisme, qui visiblement s'inscrit dans un héritage de l'Empire Inca. Vous nous présentez un peu ce parti qui est un peu fourre-tout, visiblement, qui est très évidemment qu'on ne connaît pas, nous, ici, on n'a pas d'équivalent. Et jusqu'où est-ce qu'il vous semble qu'il pourrait faire une percée dans le paysage politique ?
Alors, je vais pas forcément pouvoir vous rendre compte du menu détail de l'organisation de ce parti. Ce que je lis de cette croissance que vous évoquez, en tout cas, cette explosion qui est malgré tout relative, hein, parce que effectivement, si en termes statistiques, on a une participation, on va dire des intentions de vote qui sont validées vis-à-vis de ce parti-là, en termes relatifs, c'est une représentation infime à l'échelle de la société péruvienne. Hein.
J'entends bien, mais c'est 9% aux législatives, et c'est donc la troisième force politique au Parlement aujourd'hui.
Troisième force politique avec 15 députés.
Ouais.
Pour vous dire à quel point c'est relatif, puisqu'on parle de troisième force politique avec 15 députés sur un ensemble de 130. Donc ça reste, je veux dire, il faut bien se rendre compte qu'on est là face à un système qui est devenu profondément ingouvernable, dans la mesure où de toute façon, bon, désormais, dire le sort en est jeté de cette mandature, de cette législature plutôt, mais en l'occurrence, on est dans un système où les coalitions sont l'absolue nécessité pour pouvoir gouverner et que ces petits partis-là, même s'ils ont tiré profit d'une élection qui est pour le moins atypique, tout à fait exceptionnelle sur le plan de la représentation politique, ne peuvent exister au-delà des alliances qu'ils vont former avec d'autres. Et en l'occurrence, et d'ailleurs les partis évangélistes dans l'Amérique latine en général, on le voit, sont des partis influents aussi parce qu'ils arrivent à construire des coalitions qui leur sont plus larges et qui permettent de peser plus que ce qu'ils ne représentent en termes de population.
Oui, si je vous comprends bien, Kevin Partenay, si je vous comprends bien, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'avec, compte tenu de cette fragmentation politique, si l'on reste dans ce cadre constitutionnel, on ne sortira pas de la crise. Pour vous, et je reviens en fait à ce que vous disiez au début de l'émission, pour vous, pour en sortir, ça doit passer par une réforme constitutionnelle. C'est ça votre position,
ouais. Ben, j'en suis absolument, oui, tout à fait. Comme je vous disais, j'ai commencé mes interventions en disant qu'on était vraiment là face à un système qui était à bout de souffle. Je crois qu'on en a tous les marqueurs. C'est-à-dire que là, en termes de représentation, on a une faille. On parlait de participation et, en l'occurrence, de ce que valent ces forces politiques dans le paysage national. On a une participation pour cette élection-là qui est de 74%. Encore une fois, il faut quand même regarder au-delà de ces 74% qui est une baisse de la participation, prendre en compte tous les votes qui ont été blancs et nuls, même chose que pour le Brésil, situation dont vous avez parlé hier, on n'est plus à 74%, on est autour de 58% d'expression véritable pour des candidats, c'est-à-dire de l'expression, une participation positive, qui va formuler véritablement le choix, enfin un choix qui va être formulé vers un candidat. Donc on a une défiance et une désaffection de la part des citoyens massive de leur système politique et des organismes de représentation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et en l'occurrence, ce que vous dites par rapport au parti évangéliste, c'est néanmoins malgré tout très intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait des replis sur des structures de représentation d'intérêts réduites, sur des corporations. Et en l'occurrence, là, on est plutôt dans un dysfonctionnement de la représentation plutôt que une dynamique qui va vivifier la démocratie représentative.
Marie-Estelle Lacuisse, une réponse courte, si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec Kevin Partenay ? Est-ce qu'il vous semble que sortir de la crise passera inexorablement par une réforme de la Constitution ? Et puis ensuite, on prendra la direction du Guatemala, où là aussi, on a une crise politique et là aussi, on a des problèmes de corruption. On retrouvera Gilles Bataillon. Mais vous pensez que pour ce qui est du Pérou, il faudra une réforme constitutionnelle pour espérer s'en sortir ?
Oui, alors là, j'adhère à ce que dit Kevin. C'est une évidence, il faut revoir ce système hyper présidentiel. Le deuxième point, peut-être à ajouter, pour un changement de ce pays, c'est aussi les universités et qui sont qui se mordent un peu comme une peau de chagrin aussi dans ce pays. Il y a un problème d'accès à l'éducation et ça fait partie aussi du renouvellement de la politique par de nouveaux acteurs. Je pense que c'est le deuxième point important. Voilà, pour faire bref.
Merci d'avoir fait bref. On était avec vous, Marie-Estelle Lacuisse, et vous, Kevin Partenay, dans cette série consacrée à l'Amérique latine. Aujourd'hui, on parle du Pérou, quand la corruption fait tomber des têtes, et des têtes, il pourrait bien en tomber aussi du côté du Guatemala, puisque la rue guatémaltèque s'embrasait le 21 novembre dernier contre la classe politique. Le Congrès a été partiellement incendié à la suite de violentes manifestations qui remettaient en cause l'adoption par le Parlement d'un nouveau budget qui devrait favoriser, c'est ce que disent en tout cas les manifestants, le secteur privé dans un pays où la corruption est très forte et où quasiment 60% de la population vit dans la pauvreté. On parle tout de suite du Guatemala.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous sommes fatigués. Il n'y a pas d'autre moyen de montrer notre refus catégorique, de montrer à quel point nous en avons assez. Nous sommes fatigués de tant d'abus de la part des autorités.
Le Guatemala pleure du sang. Le peuple en a assez d'être piétiné depuis plus de 200 ans.
Voilà, la rue qui en a assez, la révolution des haricots, c'est comme ça qu'elle est maintenant appelée, une réponse au député conservateur Ruben Barrios qui avait qualifié les manifestants de mangeurs de haricots. Bonjour Gilles Bataillon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes sociologue, directeur d'études à l'EHESS. Cette crise, elle est partie du vote du budget. Le gouvernement avait prévu un budget de 13 milliards de dollars, le plus important de l'histoire du pays, ça représente quand même 36% du PIB. Mais visiblement, ce budget, il pose problème pour les manifestants, pourquoi ?
Alors, il pose problème parce qu'il y a toute une série, disons, de services de base qui ne sont pas favorisés par ce budget. Et l'autre chose très importante qui n'a pas suffisamment été dite, c'est que ce budget favorise considérablement les députés en leur donnant toute une série d'émoluments, de privilèges, et que, disons, on a, comme dans beaucoup de pays en Amérique latine, une classe politique qui vit de la politique, qui en vit bien, et qui n'a comme souci que de se maintenir au pouvoir et aucune idée du bien public.
Et qui se sert avec la grosse cuillère, comme on dit là-bas. Parce que pour comprendre cette colère face au budget, il faut aussi peut-être regarder comment on a géré cette pandémie, cette crise sanitaire. On a un pays qui a contracté un crédit quand même très important, 3 milliards de dollars, pour faire face à la crise du Covid. On est quand même dans un pays où on compte plus de 4000 morts pour 17 millions d'habitants, donc c'est une crise qui est grave. Et seulement 15% visiblement de ce crédit a été investi. Donc c'est aussi la réponse des autorités face au Covid qui pose problème et qui a produit cette crise.
Si vous voulez, vous avez de la part des élites politiques centra-américaines une capacité à détourner systématiquement de l'argent sur le budget public. Et disons, le plus bel exemple qu'on a vu, ça a été à l'époque de Mitch, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, où il y a eu un ouragan qui a dévasté l'Amérique centrale, et un président centra-américain, en l'occurrence nicaraguayen, a détourné de l'argent autour de ça. Mais on assiste, si vous voulez, c'est une pratique qui est systématique. Et donc vous avez des citoyens qui sont fatigués de ça, et longtemps on a considéré que c'était plus ou moins fonctionnel, que tout le monde allait bénéficier des retombées de la corruption, et là il y a une espèce de découverte que c'est une illusion, et que c'est plus possible de fonctionner comme ça. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il y a toute une partie de la classe entrepreneuriale qui s'était, disons, qui avait parfaitement toléré ces pratiques, et qui tout d'un coup découvrent qu'elles sont non fonctionnelles et qu'ils y perdent. Donc, qui se retournent contre les gouvernements. On a vu ça, disons, là, au Guatemala. On a vu ça quand le président Pérez Molina a été destitué à la suite de manifestations en 2015, il y a 5 ans, au Guatemala. Et on a aussi vu ça au Nicaragua en 2018, où la classe entrepreneuriale, qui avait longtemps collaboré avec Ortega parce qu'il avait leur donnait un régime fiscal particulièrement favorable, là, se sont retournés contre lui et, disons, tous ces dirigeants centra-américains sont pris dans des affaires de corruption, et le nombre de présidents qui, au Salvador, au Nicaragua, au Guatemala, au Honduras, pour certains ont été condamnés par la justice, pour d'autres sont dans des procès en cours, et pour d'autres, dès qu'ils perdront le pouvoir, seront soumis à des investigations judiciaires pour collusion avec des narcotrafiquants. C'est, si vous voulez, c'est une norme. On voit régulièrement ça.
Et effectivement, vous parliez d'Otto Pérez Molina, il a été poussé à la démission à la suite déjà d'un scandale de corruption, l'affaire La Linea, qui était un scandale de fraude douanière. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre au Guatemala aussi à une possible démission, destitution du président actuel Alejandro Yamatei? Est-ce que le scénario péruvien pourrait aussi advenir au Guatemala? C'est possible?
C'est des choses qui sont à l'ordre du jour. Ça dépendra d'un rapport de force des gens dans la rue. Ça dépendra aussi de l'attitude américaine par rapport à ce qui se passe là. C'est-à-dire, est-ce qu'ils soutiennent contre vents et marées un président qui a accepté que le Guatemala serve de zone de rétention et bloque les migrants, ce qui était un rôle autrefois dévolu au Mexique? Ça va dépendre de ça, et ça va dépendre de la façon dont les gens sont... Ce qui a été très impressionnant dans les manifestations qui sont apparues contre disons ce vote du budget, c'est que à la fois il y a un vice-président qui a dit mais il faut qu'on démissionne, c'est pas possible.
Mais ensemble, hein, on démissionne ensemble.
On démissionne ensemble. Ouais. Et l'autre chose qui a été très impressionnante, c'est que ça a été une manifestation qui n'a pas été simplement à Ciudad de Guatemala, mais dans toutes les capitales départementales. Et disons, il y a un bras de fer qui est en train de se lancer. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez, vous assistez depuis, disons, 5 ou 6 ans ou 10 ans en Amérique centrale à une série de manifestations de la société civile et où le monde entrepreneurial, qui avait longtemps accepté tout et n'importe quoi de la part des gouvernants parce qu'ils y trouvaient leur avantage, se mobilise pour chasser des gouvernants corrompus. Alors, on voit comme des crêtes de vagues ce qui s'est passé en 2018 au Nicaragua, ce qui s'est passé à peu près parallèlement au Honduras lors de réélections frauduleuses. On voit maintenant ce qui se passe au Guatemala. De temps en temps, on parle du Salvador avec plusieurs anciens présidents qui ont été condamnés pour des affaires de corruption. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des habitudes qui sont mises en question par la population qui, très longtemps, étaient considérées comme le moindre mal.
Gilles Bataillon, il y a une chose que vous avez dite sur laquelle je voudrais quand même revenir. Vous avez dit « ça va dépendre ». De s'il est soutenu ou non par les États-Unis. Vous êtes en train de me dire que c'est à Washington que se joue la destitution ou le maintien d'un président au Guatemala.
C'est pas à Washington que se joue cette chose. Ça se joue dans toute la communauté internationale. Mais il est évident, si vous voulez, que depuis, disons, les accords de paix en Amérique centrale à la fin des années 80, les Américains se sont désintéressés de ce qui se passait en Amérique centrale. Leur seule question, ça a été... qu'est-ce qui se passe avec le trafic de drogue et qu'est-ce qui se passe avec les migrants? Et avec l'arrivée au pouvoir de Trump, il y a eu à la fois des gestes très forts de Trump et à mon avis justifiés contre le gouvernement d'Ortega et un bénigne neglect ou une approbation des pires choses du gouvernement guatémaltèque parce qu'il a fait un bras de fer avec le gouvernement précédent pour l'obliger à accepter de servir de zone de rétention pour les migrants en disant voilà, si vous acceptez pas ça, alors on va mettre des droits de douane extrêmement importants sur tous les produits que les guatémaltèques vendent aux États-Unis. Et donc, il y a, bien évidemment, puisque, disons, vous avez à la fois une très importante émigration centra-américaine aux États-Unis, de l'envoi d'argent de ces migrants des États-Unis vers leur pays d'origine, et un débouché commercial de la plupart des produits qui sont exportés de ces pays vers les États-Unis, qui donne aux États-Unis un poids prépondérant dans des négociations avec ces pays.
J'entends, je comprends. Gilles Bataillon, peut-être...
C'est comme la France en Côte d'Ivoire ou en Afrique.
Même si comparaison n'est pas raison. Gilles Bataillon, peut-être un tout dernier point. En 2006, avait été créée sous l'égide de l'ONU une organisation chargée d'assister les autorités dans la lutte contre le crime organisé et la corruption, la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala. Et pour certains, cette commission a vraiment permis des avancées. D'ailleurs, la détention de hauts dignitaires, dont Otto Pérez Molina ou sa vice-présidente, sont le résultat de travaux conduits par cette commission. Mais pour d'autres, le bilan est beaucoup plus maigre. Et au fond, la commission n'a pas permis de faire reculer significativement cette corruption. Quel regard vous portez-vous sur cette commission internationale ?
Je pense que cette commission internationale a joué un rôle extrêmement important. Et que quand on dit ça n'a pas permis de faire reculer significativement les choses, c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. C'est faux parce que qu'est-ce qui est, disons, l'appareil sur lequel s'adosse la corruption dans ces pays ? C'est le système financier international qui est complètement pourri, et j'en prendrai qu'un exemple ancien. Vous avez une banque très honorable auquel toute une série de Français font appel, qui est le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais a accepté pendant des années qu'un chef de l'État de Panama, Noriega, dépose des sommes absolument fabuleuses qui étaient absolument inexplicables du fait de son seul traitement de chef de l'État. Bon, jamais le Crédit Lyonnais s'est posé de questions là-dessus. Donc vous avez, alors aujourd'hui, les banques sont un petit peu plus regardantes, mais on sait qu'une grande banque comme HSBC, pour laquelle on voit des publicités partout dans les aéroports, là aussi, accepte des choses impressionnantes. Il y a eu des grands documentaires là-dessus. Si vous voulez, tout le système bancaire international accepte du recyclement d'argent sale, pas simplement de celui qui vient du trafic de cocaïne qui innerve toute l'économie centra-américaine, mais aussi de biens mal acquis. Et donc, tant qu'il n'y aura pas un appui et tant que ces gens qui ont des biens mal acquis seront accueillis à bras ouverts dans les pays où ils investissent leur argent, la CICIG pourra dénoncer des choses, mais son action à un plus grand rayon sera entravé. Mmh. Et ça, ça dépend aussi de la société internationale. Il est, disons, et d'un cynisme par rapport à ça qui est absolument total.
Mais au-delà du travail de justice pure, et effectivement peut-être de pays qui, d'une certaine manière, couvrent tout cela, ça peut être eu aussi un effet sur la société civile et sur la démocratie guatémaltèque de façon générale. Je rappelle que la commission, elle n'existe plus, elle a été chassée l'année dernière, mais il y a une tribune de l'ancienne présidente de la Cour suprême guatémaltèque, tribune dans Le Monde, dans laquelle elle disait que cette commission internationale de lutte contre l'impunité avait, je la cite, laisser un socle de justice et de conscience citoyenne qu'aucune mafia ne pourra détruire. Finalement, peut-être qu'effectivement, le réveil de la société civile, même si en réalité elle n'a jamais été complètement endormie, en tout cas les révoltes d'aujourd'hui, sont aussi peut-être le fruit de cette commission.
C'est une dialectique entre les deux choses, parce que cette commission, elle a été votée par un parlement guatémaltèque qui a accepté sa venue. Et elle a accepté sa venue après l'assassinat, ce qui est très intéressant, de 3 députés du parti d'extrême droite salvadorien qui ont été assassinés par des gens de la police pour leur voler de l'argent, argent qui allait servir à des transactions avec des narcotrafiquants installés au Guatemala. Et disons, les gens, les policiers qui avaient commis ce crime ont été arrêtés et ils ont été liquidés dans la prison où ils avaient été emprisonnés. Et là, il y a une partie de la classe politique guatémaltèque qui a dit attention, là on fait haut de toutes parts et on ne peut pas continuer comme ça parce que c'est aussi nous qui pouvons y passer. Et donc il y a eu un sursaut de la société guatémaltèque à ce moment-là. Et c'est ça qui a permis la venue de la CICIG. Et la CICIG a renforcé ça, c'est-à-dire que le fait que la communauté internationale dise « attention, on vous appuie », a poussé des gens à dire « ben alors qu'avant on faisait le gros dos et qu'on se disait que pas grand-chose pouvait changer, là on a l'espoir que ça puisse changer ».
La CICIG, c'est donc la Commission internationale contre l'impunité qu'on avait mis en place au Guatemala. Merci beaucoup à Gilles Bataillon qui était à l'instant avec nous par téléphone. Un grand merci également à Marie-Esther Lacuisse et Kevin Partenay qui nous ont éclairé sur cette situation du côté du Pérou. C'est d'ailleurs avec un groupe péruvien que l'on se quitte. On mettra évidemment les références sur la page de Culture Monde. Demain, on poursuivra notre série consacrée à l'Amérique latine. On prendra la direction du Venezuela. Mais d'abord, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice. Voilà, ça y est, vous êtes là et vous nous parlez cette semaine de Covid et du monde de la culture. Salles et musées fermés, concerts et pièces de théâtre annulées. Que restera-t-il du monde de la culture après la crise? Ce matin, vous nous emmenez en Grande-Bretagne, Brice.
Oui, les propos de l'artiste plasticien Grayson Perry dans Art Society Magazine ont provoqué une vive polémique dans le monde culturel britannique. Je pense que dans tous les aspects de la vie, il y a probablement un peu de gras et qu'il a besoin d'être dégarni, a-t-il lancé. C'est terrible, je poursuis que le secteur culturel ait été décimé par la Covid, mais je pense que certaines choses devraient disparaître. Trop souvent, le public de la culture, ce sont les gens qui la produisent. Vous avez des salles de théâtre pleines d'acteurs, des expositions qui ne servent qu'à impressionner d'autres commissaires d'exposition. La Covid, c'est comme éteindre plusieurs fois de suite son ordinateur. On voit quels sont les fichiers qui réapparaissent. Il y en a dont on se fiche complètement. Ce qui est intéressant, c'est ce qui pourrait réémerger. Fin de citation. Alors cette vision un peu, comment dire, darwinienne de la vie culturelle n'a guère plus dans les milieux concernés, on s'en doute. Dans The Guardian, Sarah McCrory, qui est la directrice du Centre Goldsmith d'art contemporain, insinue que cet artiste, réputé iconoclaste et subversif, aurait rejoint les rangs de l'élite sociale dont il prétend se moquer dans son travail. Mais le faire en ce moment, poursuit-elle, est honteux. Et le chanteur et acteur Marcus Reeves a tweeté, je cite, « Avant même la Covid, la plupart des acteurs que je connais n'avaient pas l'argent pour aller au théâtre, ni les musiciens pour se payer des concerts. » Dans le Guardian encore, un membre anonyme de la Royal Academy, dont Grayson Perry fait aussi partie, déplore la sortie de Perry. Selon lui, ce sont au contraire les nouveaux venus aux carrières à peine débutantes qui vont faire les frais de la pandémie, pas le bois mort. Et selon Aaron Angel, qui est directeur de la Troy Town Pottery, les gens qui vont perdre leur job, ce ce sont les gardiens de musée, les guides, les accompagnateurs de groupe, bref, tout le personnel qui rend la visite des musées possible. Et en effet, si les galeries d'art ont déjà licencié une bonne partie de leurs salariés en Angleterre, à présent, ce sont les grands musées britanniques qui, eux aussi, annoncent des vagues de licenciements. Jusqu'au fameux Victoria and Albert Museum de Londres, le plus grand musée d'art décoratif et appliqué du monde. Le National Trust, l'association qui veille à la conservation des plus beaux domaines du Royaume-Uni, a annoncé de son côté qu'il allait licencier 1200 de ses 10 000 employés.
Mais Brice, si le National Trust est une association privée à but non lucratif, le monde de la culture et des arts en Grande-Bretagne, comme en France, bénéficie d'importants soutiens publics.
Oui, pour aider les théâtres, les musées, les salles de concert à faire face à la fermeture imposée pour contenir l'épidémie en cours, le chancelier de l'échiquier, Rishi Sunak, a annoncé cet été la création d'un fonds supplémentaire spécial qui s'appelle le Culture Recovery Fund. Il est doté d'un budget d'1,570 milliard de livres et il a été placé sous l'autorité de l'Arts Council of England. Dans une étude publiée par le site Counterculture, Joe Wright détaille la puissance du secteur des industries créatives et culturelles au Royaume-Uni. Et il s'interroge sur la manière dont elle traverse l'épreuve de la Covid-19. Nos voisins britanniques distinguent trois grands groupes d'activités dans ce domaine. Les formes artistiques traditionnelles qui comportent l'artisanat d'art, la littérature, la musique, les performances, les arts visuels, tels que les arts plastiques. Ensuite, vous avez les nouveaux médias qui reposent sur la technologie, qui incluent donc radio, télévision, vidéo, jeux vidéo. Et enfin, le secteur dit des services créatifs qui comporte l'architecture, le design, le software, la publicité, l'édition. Ensemble, ces activités représentent 6% du PIB de la Grande-Bretagne et elles emploient environ 2 millions de personnes, dont beaucoup ont sans doute d'indépendants et de salariés de très petites entreprises. Mais remarque Joe Wright, c'est un secteur qui était en forte croissance avant l'épidémie. 43% en termes réels de croissance entre 2010 et 2018. Et cette croissance avait été en plus particulièrement spectaculaire entre 2017 et 2018, soit plus 7,4%. On doit s'attendre à une chute de 30% cette année du fait de l'épidémie et de ses conséquences sur la vie culturelle. Joe Wright, toujours lui, estime que le nombre d'emplois déjà perdus serait de 406 000 en Grande-Bretagne, dont 119 000 salariés et 287 000 indépendants ou auto-entrepreneurs. Une véritable hémorragie pour le monde de la culture. On ne connaîtra pas avant un certain temps l'impact de l'épidémie, conclut-il, mais il y a de bonnes raisons de penser que le redémarrage sera rapide. Le secteur est caractérisé par la créativité, la résilience et l'agilité. Mais beaucoup, il faut le savoir, dépendra des publics eux-mêmes. Retrouveront-ils vite ou non le chemin des théâtres, des cinémas, des salles de concert et des lieux d'exposition? Ou bien les gens persisteront-ils dans l'habitude qu'ils ont prise de consommer essentiellement des services numériques à la maison? Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, Netflix a gagné plusieurs millions d'abonnés dans le pays lors du confinement. Sans doute regarde-t-il The Crown.
Ah, The Crown qui est une très bonne série par ailleurs, hein, Brice. Mais peut-être feront-ils les deux. Merci beaucoup, cher Brice. On se retrouve demain dans un très court instant. C'est Olivier Gesbert et La Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.